Bonjour, rebonjour tout le monde, bienvenue dans votre émission Pierre qui roule vers vous. Vous êtes bien sur Eau de Radio, toujours 91.3. Vous réécouterez l'émission en podcast sur eau-de-radio.fr. Bonjour à toutes les deux, bienvenue.
Bonjour Pierre.
C'est un plaisir.
Merci. Merci, merci.
On va parler d'un sujet très très important qui est le handicap. Des idées reçues, autour
de l'emploi.
Et l'emploi, c'est ça que j'allais rajouter avec les entreprises et tout ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a encore un long combat à mener, mais on va décortiquer ça avec toutes les deux.
Oui.
Marie, tu veux nous présenter un petit peu justement
handicap intérim. Oui. Écoute, merci pour ton invitation, Pierre. Alors, moi, je suis Marie Nadeau. Je travaille pour APF France Handicap, qui a ouvert il y a 4 ans des agences d'emploi sur la France.
Okay.
Donc, on a ouvert Paris il y a 4 ans. Moi, je m'occupe de la Nouvelle-Aquitaine et nous sommes basés à Bordeaux. On a ouvert Normandie et on a ouvert Montpellier pour Occitanie.
Ouais.
Donc, notre agence, c'est ce qu'on appelle une agence emploi, une boîte d'intérim. Mais on n'est pas une boîte d'intérim comme les autres. On est une boîte d'intérim différente.
Bien.
Voilà. Ça veut dire quoi ? On est une boîte d'intérim différente. Ça veut dire qu'on est une entreprise adaptée de travail temporaire. C'est-à-dire qu'on ne peut travailler qu'avec des personnes en situation de handicap.
Ouais.
Et surtout, ce qu'il est important de dire, c'est avec tous les handicaps sans distinction de handicap. Ça, c'est la clé d'entrée.
Ouais.
Je vais préciser quelque chose qu'il est important d'imaginer dans le champ du handicap. C'est vrai que lorsqu'on est demandeur d'emploi, lorsqu'on a fini ses études, lorsqu'un jeune qui n'a pas de soucis de santé a fini ses études, ses parents lui disent ou il dit je vais m'inscrire à la mission locale, je vais m'inscrire au PLI, je vais m'inscrire à Pôle emploi. Bon, quand on est en situation de handicap, pour 80% on va dire des publics que l'on reçoit sur nos agences, eh bien, il y a pour beaucoup pas d'inscription à Pôle emploi et pas d'inscription sur des partenaires de l'emploi pouvant les accompagner. C'est dramatique. Ce qui fait que il faut savoir et connaître les chiffres quand même. Actuellement, le taux de chômage a augmenté depuis quelques mois, on le sait en France, de 7% on est passé à 8%.
Ouais.
Eh bien, nous, historiquement, depuis des années, nous sommes à 17% de taux de chômage.
C'est énorme.
Voilà, c'est quand même énorme. Et du coup, ces agences correspondent vraiment à un besoin dans l'accueil de ces personnes pour prendre en compte leurs demandes et puis leurs démarches.
Oui, oui.
Voilà.
Ben oui. Et le fait que... Alors je sais que maintenant, la mission locale, par exemple, enfin maintenant, ça fait un petit moment, mais on peut accompagner justement des personnes avec une situation de handicap. On peut dépasser l'âge de la mission locale qui est 26 ans à 29 ans. Sur des parcours comme le contrat engagement jeune, des choses comme ça. Mais on a aussi une référente handicap qui est assez efficace, qui a pris ses fonctions il y a une année et demie.
Ouais.
Camille, bonjour Camille. Et qui est hyper, hyper sensibilisée justement sur le sujet. Et ça, du moins, moi je parle pour la paroisse pour laquelle je connais, la mission locale des Hauts-de-Garonne.
Que je connais, hein.
Et que tu connais aussi. C'est vrai que c'est un sujet hyper important et qui pris en compte et sérieusement.
Alors, le constat que l'on fait sur les partenaires de l'emploi, Mission Locale, PLI, Cap Emploi, Pôle Emploi et toutes les autres associations, c'est qu'il y a une méconnaissance des handicaps qui fait que les personnes en recherche d'emploi ont du mal à trouver un bon interlocuteur.
Il
y a des associations qui ont un suivi particulier sur certains handicaps. Je pense par exemple à l'autisme. Je pense par exemple à la trisomie où effectivement ces associations ont un service d'emploi. Ouais. Et en ayant une extrême connaissance du handicap, elles arrivent à placer dans les entreprises en intégration des personnes qui souhaitent travailler normalement, comme bien on sûr. Dit. Voilà. Mmh. Sinon, ça reste relativement complexe pour tous les acteurs. Le constat qu'on fait, nous, à ce jour-là, c'est que par manque de connaissance des handicaps, la majeure partie des structures qui accompagnent les demandeurs d'emploi sont un peu dépourvues, ne savent pas toujours bien faire. Donc, effectivement, on va nous renvoyer ces personnes-là. Ces accompagnements. Je vais préciser aussi une chose, c'est que dans le paysage du handicap, il y a plusieurs manières de travailler.
Oui.
Il y a ce qu'on appelle les AT, donc c'est une structure qui permet à des personnes en situation de handicap de travailler, mais ça s'adresse vraiment à des personnes qui ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire.
Oui.
On a ce qu'on appelle aussi les entreprises adaptées. Donc là, cela s'adresse à des personnes en situation de handicap un petit peu plus autonomes. Okay. Voilà. Donc, dans ces deux cas de figure, dans ces deux structures, les entreprises délèguent des activités, des petites productions à ces structures-là, et les personnes en situation de handicap sont encadrées par des personnes de la structure ESAT ou entreprise adaptée. Voilà, et ça leur permet de remplir une partie de leur quota. Nous, APF a souhaité aller plus loin en parlant d'inclusion directe.
Okay.
C'est-à-dire que la personne a des compétences, elle est en situation de handicap, cependant elle est autonome pour occuper le même poste que les autres personnes. Voilà.
Okay.
Donc nous on est dans ce créneau-là. Après 4 ans d'existence, le constat est quand même, en sortant d'une période d'emploi, de plein emploi pratiquement, le constat est compliqué. Parce que effectivement, on se rend compte qu'il y a des méconnaissances des handicaps, il y a des peurs, il y a de ne pas savoir en parler, on ne fait pas du tout. On préfère payer les amendes parce qu'on ne sait pas faire, on n'a pas les managers, et puis ça va être compliqué pour nos managers, donc du coup on veut pas les perdre, donc pour l'instant c'est pas possible pour nous. On n'est pas équipé pour, bon.
Ouais,
donc
c'est ce qui revient souvent, quoi.
C'est ce qui revient souvent. On n'a pas d'ascenseur. Dans nos agences, sur le nombre de personnes inscrites, à peu près 800, nous avons une à deux personnes en fauteuil roulant.
Voilà, oui.
Bon. Donc ça reste encore des clichés.
Oui. Le mot handicap qui provoque ça dans l'imaginaire, c'est-à-dire fauteuil roulant, quoi. C'est
voilà.
le premier réflexe,
voilà.
C'est ça.
Ouais. Voilà, et bloquant dans le sens où... moi, je connais beaucoup de personnes en fauteuil roulant qui ont autant de capacités que les autres. Le seul bémol, c'est les jambes qui ne fonctionnent pas. Voilà.
Ah oui, ouais.
Donc, c'est vrai qu'il y a... Alors, ce que je constate sur le terrain, il y a ces clichés du handicap non autonome et du handicap en fauteuil roulant.
Mmh.
Voilà. Et de plus, ce qui freine vraiment la démarche des entreprises... Alors, les services RH sont tout à fait partants sur la démarche.
Ouais.
Parce qu'ils ont envie d'avancer. Il y a des référents handicap. Par contre... les managers n'ont pas le temps. Voilà.
Ouais.
Ils sont pressés. Ils ont peur. Ils ne savent pas en parler. Donc, du coup, on ne fait rien. Et c'est quand même dommageable pour toutes ces personnes qui ont de belles compétences et qui sont super motivées.
Et c'est un vivier de talents inexploité quelque part.
Voilà, ce sont des, ouais. comme je dis, des pépites. Mmh. Et comme je leur dis, je vais prendre un exemple très concret. Il y a 2 mois, une entreprise m'appelle parce qu'elle avait besoin d'une assistante administrative pour 3 jours pour faire des photocopies dans le cadre d'un audit.
Oui.
Et l'entreprise était toute fière de faire appel à nous pour faire appel à une personne en situation de handicap. Ah, c'est génial.
Ok.
Mais s'y prend 2 mois avant.
Ah.
Ah, j'ai dit, j'ai pas compris là. Mais on est une agence d'emploi. On fait la même chose que les autres agences d'emploi. On a la même réactivité. On a des personnes aussi compétentes, aussi motivées. Vous pouvez vous y prendre la veille pour le lendemain.
Ben oui.
Et vous aurez une personne.
Mmh.
Voilà. Ah bon, vous croyez que ça va être possible? Ben, j'ai dit oui, on fait ça quand même au quotidien avec les entreprises qui nous connaissent. Je ne vais pas vous envoyer un extraterrestre. Bon, finalement, on s'y est pris juste une semaine avant. On a trouvé, parce qu'on n'a que des gens formidables,
ouais.
une perle qui leur a fait ça en 3 jours et qu'ils ont redemandé par la suite.
Voilà. Ben voilà.
Bon. Donc ça fait partie des clichés qui sont quand même très regrettables alors que l'on est capable de partir sur Mars, sur la Lune,
oui,
etc.
C'est ça.
Et que l'on entend régulièrement « Ah oui, mais moi j'ai des profils pénuriques, je ne trouve pas, mais ceci, mais cela. Ah oui, mais les personnes handicapées, les pauvres, quand même, ça va être compliqué pour eux. Non.
Mais non.
Non.
Waouh, ok.
Wow.
Bien dit, en tout cas. Tiens, un petit côté militant, Marie.
Ah, ah bon.
Ouais, j'aime bien ça. On va continuer à militer à fond, hein, parce que il faut vous faire bouger. De toute façon, je pense que plus on en parle, plus on met en avant,
ouais.
plus ça évoluera un jour. On peut
ouais.
espérer quand même.
Il faut en parler.
Ouais. Et toi, Margot, alors ton parcours un petit peu
ben, moi, d'ailleurs, je suis en situation de handicap.
Ouais.
Je suis graphiste.
Ok.
Et en fait, j'ai fait du coup mes études dans le graphisme. J'ai eu mon bac. Et puis après, ben, la question comment chercher un emploi après la fin de ses études. Du coup, j'ai toqué à la porte de plusieurs entreprises pour la recherche d'emploi.
Ouais.
Puis après, de moi-même, en 2019, j'ai trouvé un CDD dans une mutualité.
Ok.
Voilà, pour un congé maternité, première expérience. Voilà, qui s'est terminé bah, juste avant le Covid.
Ok, ouais.
Donc, ce n'était pas la meilleure période après pour rechercher un emploi.
Et ouais.
Donc, du coup, un an après, j'ai retrouvé un emploi toujours par moi-même.
Ok.
Dans l'impression. Parce que quand on est graphiste, on peut aussi bien travailler dans l'impression que de la création de supports de communication.
Ok, il y avait un panel un peu plus large.
Et j'avais toujours demandé, en fait, à ce qu'on adapte mon poste.
Et oui.
Mais ça n'a pas fonctionné.
Ok.
Enfin, voilà. Du coup, mon ancienne supérieure m'a rappelé en me disant « Voilà, Margot, on a besoin de toi pour la mise en page d'un livre. Est-ce que tu es prête à te mettre en auto-entreprise ?» Là, c'était du coup en février 2021.
Ouais.
Est-ce que tu es prête de te mettre en auto-entreprise, etc. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc, je me suis lancée.
Mm-hmm.
Et puis, bah, un an après, quelques mois après, je me suis dit, bon, je vais peut-être... va falloir que je recherche du boulot parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience, etc.
Ouais.
Puis, du coup, j'ai refait appel du coup, aux organismes. Bon, bah, rien de très concluant. Mais de moi-même, j'ai recherché un emploi.
Ok.
Et là, j'ai travaillé, pareil, c'était plus dans une entreprise assez renommée dans l'informatique.
Ouais.
Et grâce à eux, j'avais une mission pour une grande boîte d'aéronautique.
Ok. Ouais.
Donc ça, c'était assez intéressant, mais c'était en intérim. Donc voilà. Du coup, j'ai recherché. Je devais, suite à mon handicap, on a toujours la visite du médecin du travail.
Oui.
J'avais demandé l'adaptation du poste, comme au dernier
emploi. Comme le poste d'avant, oui.
Ce qui n'a pas été concluant par la médecine du travail.
Ah, avec la médecine du travail, ouais, là, ils n'avaient pas...
la médecine du travail. Donc, okay. Je me suis mise en arrêt 5 mois après parce que, faute d'adaptation, voilà.
Ah ouais, ça n'a pas été pris en compte.
Ça n'a pas été pris en compte.
Waouh, ok. Donc, t'as dû prendre une petite claque, là, quand même. Aussi.
Oui. Mm. Du coup, ça s'est fini en arrêt, en arrêt de travail. Et puis, j'ai fait une très belle rencontre.
Ah.
En début 2023, parce qu'en fait, j'avais quand même gardé mon statut d'entrepreneur.
Oui.
Du coup, je me suis dit, pourquoi pas. En fait, j'ai croisé Nathalie Parent-Dumoulin, qui fait tout ce qui est traduction, qui est entrepreneur, et qui m'a dit, mais viens, viens voir ce que c'est, les groupes d'entrepreneurs, etc. Donc, j'ai commencé comme ça en 28 février 2023.
Ok.
Et puis après, j'ai fait les clubs, j'ai essayé de me faire connaître par rapport à mon activité. Et voilà où j'en suis. Mais je ne pensais pas me retrouver en auto-entreprise. En fait, moi, je voulais trouver un emploi stable.
Oui, ce n'était pas ton projet de carrière au départ.
Ce n'était pas du tout mon projet. Donc.
Et même alors, du coup, tu avais été accompagné, toutes les structures d'accompagnement, justement, pour la recherche d'emploi.
Oui.
Ça fait pchit à chaque fois, quoi. C'est vraiment par toi-même que tu as réussi à débloquer
à
le truc.
À rebondir, en fait. Parce que j'allais pas rester à rien faire.
C'est pas
dans mes habitudes. Du coup, j'ai plus dépassé mes limites qu'autre chose en entrant dans le monde de l'entrepreneuriat.
Ouais.
Mais de moi-même.
C'est dur, ça. Hein.
Donc, à se lever à 7h du matin, à pitcher devant je sais pas combien de personnes.
Ça marche bien, l'entreprise, là, maintenant, du coup elle est,
Oui, ça fonctionne bien. Maintenant, je connais de plus en plus de monde.
Ouais.
J'ai un réseau, maintenant. Et puis, c'est certes une autre vie, mais... Et voilà.
Margot ne nous parle pas du nom de son entreprise. Il faut qu'elle nous dise ce qu'elle fait.
Mais
parce
oui.
Parce que du coup, comme je disais, je suis graphiste.
Ouais.
Je fais tous les supports de communication.
Ok.
Donc ça peut partir du logo différents supports de communication comme les cartes de visite.
Ouais.
Ça peut être les kakémonos pour tous les événements, pour tout type d'entreprise, même les radios, même...
Ouais, petit clin d'œil.
Donc,
coucou aux deux radios. Donc,
et je fais aussi du relooking de logo, parce qu'on n'en parle pas souvent en tant que graphiste, mais notre communication, forcément, elle a besoin d'évoluer, parce que nos valeurs peuvent changer.
Bien sûr.
Elles peuvent évoluer, donc je fais ça aussi. Je fais aussi des maquettes de sites internet.
Ouais.
Pour les développeurs.
Ok.
Donc voilà, j'aime bien jouer avec la couleur. Voilà.
Oui, pour les auditeurs, on est sur du rouge, orangé, bleu, électrique. C'est ta marque.
Ah oui, il faut que je sois reconnaissable au premier regard comme.
C'est une super technique.
Mes clients qui sont après les ambassadeurs de leur. De leur identité. Voilà.
Super. Donc parcours qui a été tumultueux au départ. Enfin, je pense que psychologiquement, tu devais prendre un petit peu des coups quand même face à ce genre de refus, quoi. Enfin, je pense à la médecine du travail qui.
Qu'après on nous dit les personnes en situation de handicap, elles veulent pas chercher de travail. Comme on nous met des bâtons dans les roues et qu'on rentre pas forcément dans les cases.
Ouais.
Voilà.
Moi, je vais dire une chose par rapport au constat que fait Margot, et c'est le constat que l'on fait aussi. Mmh. Et moi, ce que je dis à nos interlocuteurs, c'est que quand je m'adresse à un DRH, je leur dis, ne recevez pas une personne en situation de handicap comme vous recevez un candidat lambda. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en situation de handicap, vous passez votre temps à connaître des refus.
Ouais.
Moralement, c'est très dur. Vous avez déjà l'appréhension de l'entretien parce que vous vous demandez comment vous allez présenter votre handicap. Quand est-ce qu'il faut en parler ? Est-ce qu'il faut pas en parler ? Et ouais. Vais-je en parler ? Qu'est-ce qu'il va me dire ? Comment va être sa réaction ? Etc. Donc le candidat arrive avec une peur au ventre terrible. Et après, voilà, bon, il y a l'entretien qui est stressant quand même pour
bien
tout
sûr.
Le monde.
Ça, déjà, la base,
voilà.
C'est le stress.
Voilà.
Mais c'est vrai
donc,
que.
Donc, effectivement, c'est une grosse charge mentale et beaucoup de stress pour ces candidats.
Ouais.
Tant et si bien que moi, je fais le constat concernant la catégorie d'âge de Margot qu'il y a. Tellement de désespoir que beaucoup de jeunes personnes se lancent dans l'entrepreneuriat. Mmh. Mais l'entrepreneuriat, quand même, il faut le dire, c'est la dernière des solutions pour avoir une activité, ne pas rester chez soi sans rien faire.
Ouais.
Parce que les conséquences derrière sur le souhait d'avoir un crédit, sur le souhait de prendre une mutuelle santé, etc., sont relativement lourdes.
Mmh.
Et déjà que le statut de personne en situation de handicap au regard de certaines demandes dans la société est pas toujours bien perçu pour obtenir un certain nombre d'avantages, on va dire, que d'autres personnes lambda l'obtiennent.
Ouais.
Donc voilà. Donc effectivement, l'entrepreneuriat reste la dernière solution pour avoir une activité, être reconnu dans la société.
Oui, oui. C'est vrai que c'est pas forcément se lancer comme ça dans l'entreprise, c'est.
Ben oui.
Enfin, c'est pas rien quoi.
Puis
c'est
la fatigue n'est pas du tout la même quand on est salarié et entrepreneur, la fatigue n'est vraiment pas la même. Quoi.
Ben oui, là les garde-fous, tu les as pas. Parce que voilà, les horaires, il faut.
J'en ai pas.
Le boulot s'accumule, mais il faut le faire, c'est ça.
Oui.
Ouais, c'est du non-stop.
Oui, du 24-24.
Mm-hmm. Et in fine, le fait de. Maintenant, comment tu ressens ça ? Le fait d'avoir ton entreprise.
Alors je suis très contente.
Ouais.
Je suis très contente parce que du coup j'ai dépassé mes limites et je sais que même quelqu'un qui est salarié,
oui.
Je suis même pas sûre qu'il serait capable de faire ce que je fais actuellement.
Ouais.
Donc je suis assez contente de ça.
Ouais.
Et puis on est content de se lever le matin et de se dire, on est content de se lever le matin et de se dire ce qu'on va, enfin on sait pas ce qu'on va faire demain,
oui,
mais c'est ça qui est bien, enfin c'est ça qui est intéressant.
Ça te booste.
On se remet toujours en question, mais c'est ça qui est bien.
Oui.
Voilà, c'est ça que j'aime bien.
C'est ta création, c'est toi qui.
C'est ça, c'est moi qui gère mes horaires, qui adapte mon poste comme je l'entends. Et,
ouais, ouais.
Et voilà. Et rester dans un bureau aussi, c'était pas forcément mon
pas
ambition
truc.
Première.
Non. Ouais, ouais.
Donc,
t'as besoin que ça bouge.
Oui.
Et
de voir du monde.
Oui, ben oui, important.
De pas rester seule.
Et c'est vrai que ça me fait penser à. J'accompagne une jeune aussi, pareil. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vue d'ailleurs, il faut que je l'appelle. Vous voyez, petit pense-bête pour demain. qui, pareil, une situation de handicap, alors non visible, mais qui est quand même bien là. Et elle a la capacité de pouvoir travailler. Donc, ça, elle le sait, elle l'avait vu à travers les stages et tout ça. Donc, sur 15 heures dans la semaine, pas plus. Dans des métiers, secrétariat, et voilà. Et où, c'est là, on est face à un mur total, parce qu'on ne trouve pas. On ne trouve pas.
Ouais. Je conforte ce que tu dis, Pierre, parce qu'effectivement, on on a, nous, sur nos agences, très peu de mi-temps, du temps partiel, et on le veut, on le souhaite. On avait travaillé ensemble avec une jeune femme qui devait faire des enquêtes pour la SNCF, je ne sais pas si tu te souviens. Voilà, donc on arrive à avoir ces missions, mais c'est très, très marginal. C'est la plupart des entreprises souhaitent du plein temps, et pour ce qui est du mi-temps, que ça soit dans les métiers du tertiaire, de la logistique, et ce qui est adapté quand même à nos publics, on a vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Alors, je vais faire une remarque particulière.
Vas-y.
On ne travaille pas avec la grande distribution. Je le regrette beaucoup, parce que la grande distribution fait des contrats à mi-temps pour les étudiants, à mi-temps pour d'autres raisons. Et pour ce qui est du handicap, là, il n'y a pas du tout de possibilité, pas d'ouverture.
Ah bon, voilà. Ok.
Donc, je trouve ça curieux, parce qu'effectivement, c'est quand même une opportunité pour la structure d'avoir des mi-temps et des temps partiels.
Bien sûr.
Et au-delà de cela, moi, j'ai des exemples très concrets de jeunes femmes désespérées, habitant à côté, d'ailleurs, d'une structure qui n'est pas très loin d'ici, pouvant occuper un poste à mi-temps. Cette structure fait du mi-temps sur un certain nombre de postes, et les portes se sont refermées à chaque fois. Voilà. Donc, ça reste encore une question d'actualité, quelles que soient les entreprises, hein, qu'effectivement, on a la chance de travailler, nous, avec tout type d'entreprise adaptée à nos candidats. Mais les mentalités ont besoin d'évoluer. Pourquoi on a des difficultés à obtenir des mi-temps ou des temps partiels? Parce que dans la plupart des entreprises, le contrat, c'est 35 heures pour tout le monde. Et qu'effectivement, donner un mi-temps à une personne plutôt qu'à une autre, ça pourrait peut-être... C'est mon interprétation, ça pourrait peut-être poser problème. Et pourtant, intégrer une personne en situation de handicap, comme on le voit, nous, parmi nos partenaires réguliers, c'est la chance d'avoir des personnes, comme certains enseignes me l'ont dit. Je ne leur ai pas demandé l'autorisation de donner leur nom, mais ce n'est pas l'envie qui me manque de faire de la pub pour eux. Quand on voit arriver vos candidats, Madame Nadeau, c'est super. Ils ont vraiment la pêche. Ils ont envie de bosser. Ils sont contents d'arriver au travail. Et c'est ça. C'est une bouffée d'oxygène.
Ça fait du bien.
Voilà. Ouais. Ça, il faut le dire. C'est important. Parce que qui a envie de rester chez soi avec la maladie, avec pas de perspective de vie, pas de possibilité de loisirs, de vacances, de projets, on va dire personne. Et pourtant, dans nos candidats, on s'aperçoit qu'on a des personnes qui avaient une vie formidable, formidable. C'est presque en haut de l'affiche.
Ouais.
Et puis un jour, tout s'écroule.
C'est ça. Voilà. Des personnes à l'abri. Hein.
Donc, voilà, il faut se dire que... C'est peut-être demain ce qui peut arriver, ce qui peut arriver à un enfant aussi.
Oui.
Voilà. Donc, moi, je dis aux entreprises que je rencontre, quels que soient les interlocuteurs, pensez que demain, vous pouvez vous retrouver en situation de handicap. Le handicap, c'est visible ou invisible.
Oui.
Moi, je suis en situation de handicap.
Et ben
est-ce que ça se voit?
Pas du tout.
Bon, ni Margot, je te remercie d'ailleurs. Pierre.
Ni Margot.
Ni Margot. Voilà. Et pourtant, elle est top, Margot.
Oui, une bonne dynamique.
Non, et puis de toute façon, l'aménagement de poste, c'est pour tout le monde, en fait.
Bien sûr.
Donc je vois pas en quoi ça bloquerait les entreprises d'embaucher quelqu'un en situation de handicap, en fait.
Et il y a plein d'organismes qui accompagnent justement pour les aménagements.
Alors, on fait les mêmes tâches.
Alors, nous, notre particularité, justement, c'est d'accompagner. Nous, on fait ce que les entreprises devaient faire. C'est-à-dire que pour Margot, son besoin d'adaptation. Ça va être un fauteuil, ça va être un clavier, c'est ça Margot ?
Oui, c'est ça, un repose-pied.
Un repose-pied. Ouais. Pas grand-chose.
Rien de...
c'est rien.
Alors,
c'est
je vais reprendre une anecdote que dont Margot m'a fait part. Elle est allée à un entretien, une entreprise. Alors, pour le repose-pied, bon, c'est bon, on a des caissettes, ça fera bien l'affaire. Margot ?
Non mais oui, bon, voilà. On fait avec les moyens du bord.
Alors c'est bien le plan B en attendant qu'on reçoive le truc, mais c'est bien, c'est ingénieux, mais bon.
Ça fait pas tout.
Non, mais alors justement sur cette question de l'adaptation, nous on arrive dans les entreprises en disant vous ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout. C'est-à-dire que le candidat qui a besoin d'un fauteuil, d'un écran, d'une table,
oui.
On apporte tout, l'entreprise n'a rien à faire.
Ah oui, ok.
On a travaillé avec un garçon qui s'appelle No, qui était malvoyant.
Ouais.
Et qui a occupé un poste de téléopérateur sur Mérignac et qui avait besoin d'un écran spécifique, incurvé, d'une souris, etc., etc. On a été en l'espace de, on va dire, parce que c'est un peu long au niveau, c'est long au niveau du demande de financement de la GFIP, etc. Mais on a mis en gros, allez, une semaine et demie à avoir le matériel. Et ce que je quand même tiens à dire, gros avantage à travailler avec nous, pour les entreprises qui nous écoutent, c'est que chez APF, nous avons une plateforme de matériel qui peut nous être mis à disposition au plus vite, voire dans les 48 heures. Donc c'est quand même un gros avantage.
Ah oui, c'est voilà. Pas photo, oui.
Donc la question pour nous de la problématique du matériel ne se pose pas. C'est-à-dire que on va dire aux entreprises, vous retenez le profil de telle personne, de Margot. Bon, ok, quand est-ce qu'elle commence, Margot ? Bon, en général, si c'est une mission longue, ça peut être un délai d'une semaine avant la prise de poste. Bon, on est capable, sous ce délai d'une semaine, de fournir à Margot, qui est intérimaire pour notre agence, le matériel.
Ouais.
Donc, il n'y aura pas pour l'entreprise difficulté à avoir du matériel et de complications, etc. Et de plus, je veux dire, ça va faire partie des effectifs qui vont rentrer dans les décotes concernant les exonérations.
Oui. Voilà.
Donc, la question de l'adaptation, pour nous, ne se pose pas. Elle se pose pour beaucoup d'agents d'emploi parce qu'effectivement, cela nécessite une connaissance des acteurs du handicap, des matériels, etc., etc., et des circuits. Nous, on fait circuit court, comme on dit.
Oui.
Donc, tout va bien.
Écolo, en plus. Non, c'est bien, oui. Ouais, c'est hyper intéressant. Et l'accompagnement aussi des personnes, justement, dans l'entreprise aussi.
Oui,
justement.
Voilà. Alors, ce qui est important à dire, c'est que moi, ça fait très longtemps que je travaille avec les personnes en situation de handicap. Il ne s'agit pas seulement de les mettre en emploi. Il faut aussi suivre pendant le temps de mission le candidat avec le manager. Moi, j'ai vu des personnes, il y a un événement qui m'avait frappé une vingtaine d'années. Je vais dans une entreprise qui n'était pas très loin d'ici à Floirac et j'arrive à l'accueil et c'est un monsieur qui était malvoyant.
Ouais.
Donc j'étais super contente, je discute avec lui. Oui, j'ai pris mon poste il n'y a pas très longtemps, je suis ravie si vous saviez, etc. Bon. Je repasse 6 mois après, la joie du monsieur était beaucoup plus tempérée.
Ah.
Oui, alors parce que ils ont du mal à comprendre, ils n'ont pas compris que j'étais malvoyant. Alors tous les jours j'ai un peu plus de travail à faire.
Ah oui.
Voilà. Parce que handicap, les retours qu'on a, nous, des entreprises, c'est par exemple en manutention, le gars qui a des problèmes de dos, il ne peut pas faire de port de charge lourde.
Oui.
Les collègues vont lui dire « Oh non, mais attends, c'est pas pour une fois quand même que tu vas t'abîmer le dos en prenant un colis de 30 kilos quand même. Tu rigoles. Oh » ouais, il n'a pas l'esprit d'équipe, ce gars.
Oui, voilà. Il y a le jugement.
Et par exemple, si je prends des tâches administratives que certaines personnes vont faire, je prends l'exemple de ce monsieur qui m'avait beaucoup frappé, c'est-à-dire qu'on empilait tous les jours un peu plus de travail. Jusqu'au jour, je suis repassée 6 mois après, il n'était plus là.
Ah oui, oui. Voilà. Ouais.
Et il m'avait dit, je pense que je vais arrêter parce que j'en peux plus. On ne prend pas en compte suffisamment nos handicaps. Donc, le suivi en mission est hyper important, comme la sélection de l'entreprise. Et ce que je dis, moi, c'est qu'on est avec nos candidats sur une relation de confiance. On se dit tout. C'est-à-dire qu'un candidat que l'on va contacter, parce qu'on les contacte très régulièrement en mission, on a un rapport, même si on ne se voit pas, mais régulier et très serré, on réagit très vite quand il y a un problème. Je prends un autre exemple très flagrant. Là aussi, et c'est récurrent dans les entreprises, on avait un garçon en poste sur une plateforme logistique qui avait un handicap psychique.
Ouais.
Donc, il lui fallait vraiment des tâches découpées. On s'était mis d'accord avec le responsable de la plateforme. Donc, il a commencé sa mission, tout va bien. Il devait prendre les colis, sortir des colis du camion, les mettre dans un endroit. Quand tout était fini, il passait le balai. Et puis après, il allait faire du tri des emballages. Et un jour, tout le monde était super content. Super. Mais tout un bon état d'esprit. Enfin, il était formidable. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait ? On lui en a donné un peu plus.
Eh oui.
On lui a dit, oh, t'es un gars formidable, tu vas aller dans le camion nous scanner les colis.
Mm-hmm.
Il m'a appelé à 10h en disant, Marie, j'arrête la mission. J'ai dit, comment ça ? C'était formidable jusqu'à présent. Mais Marie, mais je ne peux pas. Pour moi, scanner des colis, j'ai peur, je ne sais pas faire ce genre de choses. Donc je suis allée voir le responsable de la plateforme, on a enlevé cette tâche. Et tout
c'est reparti.
Voilà. Donc voilà. Donc
oui,
ça tient.
Il y a le réflexe en fait dans une entreprise de demander toujours plus, plus. Une fois que le truc est maîtrisé, allez hop, un peu plus et un peu plus et un peu plus et un peu plus.
Voilà.
Sauf que voilà.
Voilà. Donc tout est possible à condition effectivement qu'il y ait un suivi dans les entreprises. Et nos candidats ne peuvent pas pour beaucoup de s'inscrire dans les autres agences d'intérim lambda, je ne leur jette pas la pierre, c'est que il n'y a pas la connaissance du handicap, il n'y a pas le temps nécessaire. Les candidats que l'on voit sur nos agences, on les voit sur 2 ou 3 entretiens de 1 heure. On doit être sûr de... Il faut qu'ils aient bien compris qu'on est sur une relation de confiance. Parce qu'on n'a pas le droit de se planter lorsqu'on envoie quelqu'un en entreprise. Sinon, l'entreprise dira qu'on n'est pas bon, on ne sera pas rappelé.
Ah ouais, d'accord.
Voilà.
Oui, oui, oui.
Donc, moi, ce que je dis à beaucoup d'entreprises, c'est faites-nous confiance. On sait pertinemment que vous avez beaucoup d'attentes vis-à-vis de nous, qu'il y a des peurs. Voilà.
Oui, mais voilà. Mais d'avoir, c'est bien aussi d'avoir certaines entreprises que tu citais pas, mais qui sont plutôt contentes, du coup, ont eu la curiosité, justement, d'aller au-delà de ces peurs, c'est de ces idées préconçues. Et du coup, agréable surprise. Ah, bah mince, ils savent faire.
Ça. C'est ça.
C'est ça.
Et je voudrais rajouter quelque chose qui est important. Parce que beaucoup d'interlocuteurs ne font pas appel au handicap. Pour quelle raison ? Déjà, c'est d'en parler.
Voilà.
On a peur des mots. Bon, ce qui me revient très souvent, oui, mais moi, je ne sais pas. Alors, je sens la panique arriver dans mes interlocuteurs. Je leur dis, mais vous savez, c'est tout simple. Hein, une personne en situation de handicap, soit est en reconversion professionnelle, soit elle a fait un burn-out, ou elle a un problème physique ou de maladie, etc. Et puis, voilà, après, ça peut être une personne qui a des problèmes de vue, qui a des problèmes d'audition, etc. Mais il faut en parler simplement. Mais ce sur quoi on a un rôle hyper important et une carte à jouer, c'est rassurer nos interlocuteurs qui ont peur et qui savent, qui ont peur de mal faire en plus.
Mais oui.
Donc, c'est ce que, moi, c'est le message que je fais passer, parce qu'effectivement, la peur de mal faire, on ne fait rien du tout.
C'est
quand même grandement dommage.
Bah oui, il n'y a pas photo.
Alors qu'on pourrait faire plein de choses.
Il n'y a pas photo. C'est clair. J'en perds les mots. Je me mets à bégayer, ça y est, c'est bon. Ce que je vous propose à toutes les deux, c'est on fait une petite coupure pub, n'importe quoi, une petite coupure musicale. On va écouter Eurythmics, en fait c'est Annie Lennox, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas écouté. Voilà. Et bien c'est parti.
Travel the world and the seven seas. Everybody's
fait du bien, non ? Annie Lennox. Je sais pas, j'adore, moi, j'ai envie de la réécouter en ce moment. C'est un Jerick. Je trouve que c'est un des mots d'app, cette chanson, j'adore. Bon, on revient à nos moutons.
Yes.
Du coup, ouais, j'aimerais bien qu'on rebondisse un peu sur l'accompagnement justement qui est proposé justement de l'entreprise et aussi du candidat.
Alors, c'est vrai que comme ça en vitrine, intérim, ça paraît mettre en relation des candidats et des entreprises. En ce qui nous concerne, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, dans le sens où effectivement on va recevoir tous les candidats qui nous sont envoyés, de qui ces candidats nous sont envoyés. Ils vont nous être envoyés par Pôle emploi, ils vont être envoyés par Cap emploi, par les associations. Ils ont eu nos coordonnées par divers acteurs de l'emploi, ils veulent nous rencontrer. Donc on va demander à ces personnes de nous envoyer leur CV et évidemment la RQTH parce que c'est la porte d'entrée. Et on fixe automatiquement un rendez-vous. On n'a pas de vitrine, on n'en veut pas, on ne reçoit que sur rendez-vous pour avoir des entretiens qualifiés. Et sur un premier entretien, on part sur une approche globale.
C'est combien de temps le premier entretien?
Premier entretien, il faut compter à peu près 3 quarts d'heure, voire une heure, si en fonction du besoin. On aborde le parcours, la formation, le souhait de la personne, sa recherche d'emploi. L'objectif étant de, à ce moment-là, de lui expliquer aussi par rapport à ses contre-indications médicales, ce que nous pouvons lui proposer en fonction des demandes des entreprises, puisqu'effectivement, on dépend des demandes des entreprises qui font appel à nous. Et quand on parle de taux de chômage à 17% pour les personnes en situation de handicap, c'est quand même une réalité de terrain. À partir de cet entretien-là, la personne va nous dire « Ok, je vais réfléchir et puis on se revoit, donc on va se revoir. » Ou on sent qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin avec cette personne parce qu'elle n'est pas encore prête à de l'emploi direct. Donc on va quand même lui demander de réfléchir. Et on peut l'envoyer sur des acteurs divers et variés en fonction de l'emploi parce qu'on a quand même une prise en charge sociale. On a aussi beaucoup de jeunes immigrés. On a des personnes sans domicile fixe. Voilà, donc comment répondre aux besoins de ces personnes quand on ne peut pas les joindre par téléphone. Mais on reçoit aussi avec des éducateurs, avec des professionnels de l'emploi, parce qu'effectivement, il faut que ça soit libre, à l'aise, et que toute personne puisse comprendre qu'elle a une porte un interlocuteur avec qui échanger sur de l'emploi. Je prends un exemple très concret avec Trisomie 21. Nous, on peut faire des interventions chez eux où ils peuvent venir nous voir. Mais on n'a pas, sur le premier entretien, on ne fait jamais de sélection sur « Ah oui, vous cherchez un travail, vous êtes opérationnel demain et vous avez de l'expérience. » On s'en fiche de ça. On reçoit le candidat. Bon, on fait une première évaluation. J'ai en tête deux jeunes, trois jeunes même, qui me touchent particulièrement. On a reçu un jeune dernièrement qui a un BTS action commerciale avec une pathologie psy. Rien de grave, mais beaucoup d'angoisse, et qui a essayé de trouver de l'emploi et il enchaîne les contrats sans dépasser la période d'essai.
D'accord.
Donc, il a quand même une reconnaissance travailleur handicapé. Et lors de cet échange, on lui a fait part nous, des craintes qu'on pouvait avoir dans sa présentation à lui par rapport à une entreprise. Bon. Okay. Il a dit oui, mais moi c'est comme ça, bon, je vais réfléchir et puis je reviendrai nous voir. Voilà. Donc voilà, on est dans ce cas de figure. Mmh. On est aussi avec un garçon que l'on suit depuis 2 ans, qui présente des troubles d'autisme, ouais. qui est un garçon formidable qu'on essaie de pousser. Alors quand je dis on essaie de pousser, c'est les candidats, on va les suivre, évidemment, s'ils sont d'accord, tout le temps qu'ils veulent. On peut avoir un contact par téléphone à la semaine, une rencontre physique au mois, on va échanger parce que je vais en parler, on fait de la formation et autres. Donc voilà. Donc ce garçon a un bon niveau de formation, il a un BTS, mais effectivement, par rapport à sa pathologie, il a du mal à se positionner sur des postes ou sur des emplois, il change souvent, etc. On va quand même garder, l'accompagnement parce que on fait des accompagnements. Notre structure n'a pas vocation à faire du business, hein. C'est-à-dire que l'accompagnement, il est fait sur la base d'APF, hein. Oui. C'est très clair. Donc, on va garder ce contact et on se dit qu'un jour, avec Gishan, qui est chargé de recrutement à l'agence, on va trouver le poste. Mais ça va nous prendre du temps, mais on y arrivera. Oui. Je pense à un autre jeune qui nous est arrivé. On lui a confié 2 missions. Il était en restauration. Oui. Et on s'est rapidement rendu compte en l'envoyant dans des entreprises qu'on connaît bien, qui sont super bienveillantes, etc., qu'il est encore très tôt pour l'envoyer sur de l'emploi direct. Voilà.
Ah oui, okay.
Donc on a fait un bilan avec lui et on s'est dit qu'on pouvait l'orienter sur une structure plus adaptée parce qu'il est très jeune, il a 20 ans, il n'est pas question de l'envoyer d'échec en échec.
Oui, ouais, bah voilà, oui, parce qu'il faut pouvoir
remonter. Voilà, donc
il
y a ces accompagnements-là.
Ouais, bon. Ouais.
Ensuite, je parle de formation. C'est vrai qu'on fait beaucoup de formation. On part du nombre de candidats qu'on a avec les types de propositions qu'on peut leur faire et on met en place de la formation sur des modules qui sont très variables. En gros, les formations qui reviennent par rapport à nos publics, ça va être des formations tertiaires, ça des formations dans la logistique, ça peut être des formations comme on l'a fait dernièrement sur la lettre de motivation, le CV, les entretiens de recrutement, le pack office, etc.
Okay.
Donc voilà. Donc on a de gros budgets de formation et là c'est pareil, lorsqu'on décide de mettre une personne en formation, on ne la met pas en formation dans l'attente absolument de la faire travailler. C'est très clair dans le postulat de départ. On vous propose cette formation, ça fait partie de nos accompagnements. Par contre, vous n'êtes pas obligé de rester avec nous et de travailler avec nous derrière. Il n'y a pas de pression par rapport à ça.
C'est pas une obligation.
Zéro.
Voilà.
Voilà. Si demain la personne nous quitte parce que cette formation lui a permis de travailler par une autre agence d'intérim, tant mieux.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Oui.
On est vraiment dans cette optique-là parce qu'effectivement, l'accompagnement doit permettre un retour à l'emploi, si possible, sur du CDI. On a de belles réussites sur l'agence depuis les ouvertures.
Oui.
Donc, effectivement, on s'est rendu compte et je bataille beaucoup avec les acteurs de la formation et des financements,
ouais.
parce que on parle surtout sur l'intérim du besoin de formation de certains publics qui correspondent à du besoin des entreprises, mais on ne parle pas suffisamment du besoin des formations en formation qu'ont besoin les personnes en situation de handicap pour elles-mêmes.
Oui.
Voilà, c'est la différence. Et là, c'est quelque chose sur lequel je suis, je bataille beaucoup, parce qu'il faut faire passer le message. Dans le bâtiment, dans les travaux publics, on met pléthore de formations en place pour satisfaire la demande des entreprises. Mais moi, je constate, par exemple, sur la Gironde, que les acteurs des financements de la formation sont vraiment absents auprès de APF Handicap Intérim.
Ouais.
Voilà, ce qui est quand même regrettable. Mais bon, on a trouvé de quoi quand même faire financer toutes nos formations. Mais voilà, ça fait partie des idées reçues où effectivement, public en difficulté, mais on n'y met pas les personnes en situation de handicap. Je vais passer justement la parole à Margot, parce que public en difficulté, Margot. Oui, c'est logement, c'est...
Ah, bah, c'est la suite après, la suite de partir chez ses parents et puis de trouver un logement, mais qui veut dire logement, veut dire assurance et puis besoin financier.
Et oui.
Et sauf que quand on est en situation de handicap, bah, on peut bénéficier de la AAH et de la RQTH.
Ouais.
Et du coup, on pourrait se dire... les propriétaires savent qu'ils ont la chance d'avoir quelqu'un qui a forcément un revenu qui tombe tous les mois.
Oui, sur
une
le papier,
rente.
Oui.
Mmh. Mais en fait, la réalité, elle est tout autre.
Ah,
parce
ouais.
que c'est, ils ne vont pas forcément plus accepter quelqu'un en situation de handicap.
Il y a aussi ce frein-là.
Et ce qui est dommage.
Est-ce que l'on vit avec la AAH complète pour quelqu'un en situation de handicap à plus de 80% et de 1100 euros, quelque chose comme ça? Est-ce que l'on vit avec 1100 euros?
Bien sûr que non.
Voilà.
Non.
Est-ce qu'on peut trouver un loyer, un logement
Actuellement, c'est très compliqué.
Surtout qu'il y a cette histoire de trois fois le loyer dans le salaire, non? Enfin, dans le...
Exactement.
Aussi. Donc, déjà,
et puis après, il y a aussi... et puis, il y a tout ce qui va avec après, l'assurance
oui.
habitation...
Les factures.
Voilà. En tant qu'entrepreneur, il y a aussi la prévoyance.
Et oui.
Aussi, il y a la prévoyance qui est assez compliquée, aussi.
Ah oui, oui.
Pour être assuré, alors qu'en fait... C'est pas forcément, enfin c'est pas parce qu'on a un handicap que c'est forcément grave ou enfin.
Oui. Et qu'il y a plus de risques que quelqu'un qui n'a pas de handicap.
Ou pas de handicap.
Voilà.
Oui.
Oui, c'est ça. Ah oui, il y a beaucoup de combats, hein, quand même.
C'est beaucoup de combats. Et effectivement, moi j'admire Margot et comme d'autres. Jeunes de sa génération qui n'ont pas d'autre choix pour travailler.
Que de se lancer à leur compte. Quoi.
Elles ont de très belles compétences. J'ai en tête une autre jeune femme qui est sourde et qui a fait des études en informatique et un bac plus 4, qui a enchaîné depuis sa sortie d'études les CDD, on reconnaît ses compétences, etc., mais jamais aucun CDI. Et elle a fait comme Margot, elle a dit stop, j'en ai marre, je monte mon entreprise. Mais c'est vraiment la dernière solution, parce qu'on se dit que, on veut être reconnu dans notre travail au même titre que les autres personnes, lambda, et c'est encore pas le cas.
Ouais.
Parce qu'on rentre pas dans les cases.
Les fameuses cases qu'on adore. Ah là là, oui. Ouais, ça, c'est terrible. Il faut les casser, ces cases, une bonne fois pour toutes, parce que c'est pénible. Je défonce une porte enfoncée, déjà défoncée, là, mais il faut le dire. Voilà.
Oui, il faut le dire.
Ben oui.
Il faut dire.
Et toi, t'as fini par trouver le logement et tout ça?
Là, j'ai un logement, mais je suis à partir du mois de mai en recherche de logement.
Okay.
Soit du coup pour, surtout pour acheter.
Oui.
Soit pour louer, mais le mieux ce serait d'acheter. Donc là, je suis en pleine recherche.
Toi, ta perspective là, c'est l'achat.
Voilà,
là.
Et la prévoyance.
Et là, l'achat, ça va être aussi... T'as commencé déjà un petit peu les recherches ou
Oui, et là, je suis plus axée sur ma prévoyance pour s'il m'arrive quelque chose. Ou
oui,
voilà.
Oui.
Dans un second temps, en tout cas au mois de janvier, oui, je vais m'occuper de mon logement.
Ok.
Oui.
Un autre parcours de...
Une autre étape à franchir.
Oui. T'es costaud.
Hein, chez moi.
Il faut le dire quand même.
Merci.
C'est beau, la
Merci
détermination.
Beaucoup.
Et puis, bon, pour, en tout cas, ça te réussit.
Bah
on
oui.
peut le dire quand même.
Oui, après,
voilà. Même si c'est
ouais.
effectivement c'est pas le plan que tu t'étais fixé. J'ai la chance, cher auditeur, de voir aussi la plaquette et tout, des réalisations que tu fais.
Merci.
Et c'est quand même. C'est un super boulot, quoi. Ouais. C'est ton trésor.
Mon précieux.
On peut te suivre, je crois, sur Instagram. J'ai vu sur ta carte, non?
Oui, on peut me suivre. Sur Margot Ducellier Graphiste.
Ok.
Voilà, avec mon logo orange et bleu.
Oui,
et avec des posts réguliers des postes réguliers sur, sur mon quotidien de graphiste, ouais. Des choses à éviter, parce que c'est quand même un métier, tout le monde ne peut pas s'improviser graphiste.
Ah oui, non, c'est un métier à part entière quand même. Hein.
Et voilà, on peut suivre mes péripéties, et sur LinkedIn aussi.
Ok, super.
Voilà. Donc, sur les points à
retenir. Margot Dusselier, pour petit rappel, voilà. Graphiste.
Graphiste.
Yep. Insta et LinkedIn.
Tout à fait. Et sur ma, il y a ma page Google aussi.
Ah bah voilà.
Voilà.
Bon, on trouve. On cherche, on trouve.
Oui. Il n'y a pas moyen, on peut me trouver.
Voilà. Bon, on regardera. Oui, du coup, sur tes posts Instagram, tu mets, quand tu parles des péripéties, tu fais des vidéos justement pour expliquer
Je raconte mon quotidien, raconte ce qu'il faut faire ou ne pas faire au niveau du graphisme, parce que c'est bien après de se dire, bon, je vais regarder sur YouTube comment on fait une carte de visite ou quoi, mais après, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas apprendre par soi-même, qu'on apprend quand on fait des études, apprendre à associer les couleurs, à... les pièges à éviter quand on crée une mise en page.
Ouais.
Voilà, moi c'est ce que je raconte, et en même temps je raconte les supports que je crée, pourquoi, comment ça s'est passé, parfois comment j'ai rencontré mon client.
Ouais.
Et voilà, parce que c'est toujours une rencontre en fait, quand je crée un projet, il y a toujours eu une histoire, un passé qui a fait que on s'est retrouvé là.
Oui, c'est ça, c'est
par hasard.
Le client qui s'adresse à toi, tu vas apprendre à le connaître et tout pour être la plus précise et qu'il corresponde le mieux, c'est ça, hein.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Voilà, pour créer son identité, sa marque.
Ouais.
Voilà, qu'il a envie pour de véhiculer. Que ça ait de l'impact. Mm. Et puis après, si ça fonctionne, je me dis.
Banco, ça marchait.
Mes compétences qui, en partie.
Ben oui,
pour sa visibilité aussi.
Oui, c'est ça. Oui. Ouais, parce que c'est vrai que c'est une partie hyper importante quand on se lance. Alors toi, du coup, tu t'es fait ton design à toi.
Oui.
Ouais, mais c'est vrai que moi, j'ai envie de me lancer dans une entreprise. C'est vrai que de faire appel à quelqu'un comme toi, justement, pour parce que c'est très important l'image qu'on véhicule.
Oui, c'est comme ça qu'on va se rappeler de la personne, en fait. Ouais. De l'entreprise, en fait, on ne va pas se rappeler forcément de la personne en elle-même. Enfin, si, on va se rappeler de la personne en elle-même, mais surtout de ses couleurs, en fait.
Oui, oui, oui.
Donc,
ouais.
D'où le orange et bleu.
C'est ça.
Voilà.
Moi, j'aime bien le truc code couleur, comme ça, j'adore.
Parce que les couleurs aussi ont une signification. Donc,
mais oui.
Alors... L'énergie...
Oui, voilà. C'était la question. Du coup, le code couleur orange et bleu, c'est comme ça, ça dégage quoi ?
L'énergie. Etc. Oui, tout à fait.
Le peps.
Et puis, l'idée, moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai créé mon logo en me disant, c'est un pan de profil, en fait, pour montrer l'évolution. Parce que l'idée, moi, c'est de créer, en fait, le logo d'une entreprise. Et puis, l'idée, c'est qu'elle décolle, qu'elle évolue.
Ah.
Qu'elle ait plus de visibilité.
Yep.
Voilà, grâce à son logo.
Ouais, hyper important le logo aussi.
Et les supports.
Ouais.
Ouais.
C'est vrai que c'est passionnant comme métier. C'est un truc qui je trouve passionnant.
Merci.
Ouais, vraiment.
Merci,
ouais,
le chapeau.
On est presque à la fin de l'émission. C'était un plaisir. Est-ce que vous avez envie de rajouter un petit truc toutes les deux?
C'était touchant de parler du handicap et.
Ouais.
Et du coup, il faut faire évoluer les choses.
Oui.
Ouais, mais je rejoins Margot. Effectivement, il y a trop de personnes qui sont timorées, qui ont peur de mal faire. Faites. Et puis, il n'y a pas de souci, on est là pour vous accompagner.
Oui. Et quelqu'un qui est en situation de handicap doit être traité comme une personne normale, je veux dire, dans la manière
absolument.
De s'adresser à elle. Voilà, c'est pas...
Absolument.
C'est des personnes.
C'est une personne. Ce n'est pas un extraterrestre. Et nous ne sommes pas des ovnis. Nous sommes des hommes et des femmes, comme nos interlocuteurs.
Quoi, j'aime bien le côté ovni aussi, quand même. Hein.
Ah oui.
C'est sympa aussi.
Moi, c'est ce que je dis. Je ne vais pas vous envoyer des extraterrestres. Nous ne sommes pas des ovnis handicap intérim.
Ok. Bon, merci à toutes les deux. En tout cas, c'est un
merci
plaisir.
Pierre. Merci.
On aura l'occasion dans Pierre qui roule, et puis même sur Radio Radio, c'est un sujet quand même qui nous tient à cœur. Donc, on aura l'occasion
merci
d'en
Pierre.
Reparler et reparler et reparler parce
merci
qu'on n'en parlera
Pierre.
Jamais assez. Voilà.
Merci.
Je tenais à le dire. Et chers auditeurs, bah écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés. C'était la dernière de l'année parce que hey, Noël et Nouvel An, et ben voilà. Donc on a clôturé l'année, notre première année, Ethan, hein, d'ailleurs. C'était notre première année, ça y est. Pour notre, pour fêter l'anniversaire, parce que l'émission a été créée le 10 janvier. Donc la prochaine, c'est le 8 janvier. Donc on fêtera nos 1 an avec 2 invités. Haut en couleur aussi, ça va être intéressant. Des personnages de théâtre. Bon, j'en dis pas plus, parce que j'ai tendance à parler trop après. Bon, en tout cas, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Plein de bonnes choses, on se dira le reste l'année prochaine. Et au 8.